Amen. On va remercier le Seigneur, mes frères et sœurs.
Amen.
Seigneur Jésus, je te remercie, mon Dieu, pour ce dimanche encore. Nous sommes là pour venir écouter ta parole et aussi pour participer avec les enfants qui participent à la bar mitzvah ce matin. Je te prie de les bénir parce qu'ils vont être présentés devant toi et c'est un engagement spirituel de leur part. Je te prie de les fortifier dans leur vie pour cet engagement. Je te prie aussi de fortifier Lydie parce que nous allons fêter son anniversaire aujourd'hui. Je te remercie aussi pour tous ceux qui écoutent sur Internet. Je te remets aussi cette personne qui est de la famille d'Agathe, l'ami d'Esther, afin qu'il puisse prendre la victoire sur lui. Au nom de Jésus, je commande à cette maladie de quitter ce corps. Au nom de Jésus. Je te remercie, mon Dieu, parce que je sais que tu es un Dieu de miracles et que tu entends les prières de foi. Merci, Jésus, pour cela. Amen.
Amen.
Je vais laisser la place à notre frère Richie. Enfin, Eric Ruiz.
Bien, bonjour tout le monde. Je vais rendre un témoignage par rapport à mon travail, parce que Dieu a mis sa main dans mon travail pour que je sois valorisé, honoré. Donc je vais vous dire un petit peu comment ça se passe. Il y a quelques temps, j'ai créé un cahier d'entraînement électronique, enfin plus précisément numérique avec mes élèves. On a commencé à le mettre en point il y a quelques mois, ça commence à avancer. Là-dessus, en cherchant sur Internet, en naviguant sur Internet, je suis tombé sur le forum d'innovation, le forum des enseignants innovants. Donc, c'est un forum en fait qui est mis en place par l'Éducation nationale. Il y a la Ligue de l'enseignement, il y a pas mal d'associations, il y a la télévision, plusieurs télévisions dessus. Le principe, en fait, c'est de valoriser des projets des enseignants dans leur établissement, que ce soit en école, au collège ou au lycée. Moi, comme je suis un petit peu dans... J'ai fait un projet, je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai déposé mon projet par l'intermédiaire d'Internet. Et puis, il y a quelques jours, j'ai reçu de la part, en fait, de ces associations... une lettre qui me disait on a retenu votre projet, vous êtes parmi les 100 meilleurs projets et on va le garder, vous viendrez donc 3 jours présenter votre projet à Dax, tout frais payé, l'hôtel, etc., enfin le grand truc, et en fait ça devrait déboucher dans un premier temps sur le jury qui est là-bas va se réunir et par rapport au projet va élire les 12 meilleurs projets et les récompenser. Donc je ne sais pas à quel niveau ils récompensent, mais bon, comme il y a pas mal d'associations, dont Microsoft, etc., enfin bon, il y a des associations qui ont un intérêt, en fait, à pousser les enseignants de l'avant. Je pense que, bon, ils vont un petit peu mettre la main à la poche. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, on va voir ça. Voilà, donc ça, c'est le gros truc en ce moment. Donc je suis en train de préparer un poster géant de 2,20 m sur 1 mètre de large, parce que en fait tous ceux qui sont nominés là-bas doivent présenter donc sur un grand poster leur projet et pendant 2 jours en fait on sera dans un grand hall à présenter ça. Voilà. La chose qui est pourquoi moi je me suis enfin quand je cherchais sur Internet et en même temps il y avait quelque chose qui me pas quelque chose mais disons que c'est vrai qu'avec le Seigneur il fait les choses aussi d'une belle manière, c'est-à-dire qu'en fait avant quelques temps avant Nicolas Sabadogo était venu ici. Il était venu prêcher pour quelques jours. Et ensuite, il m'avait pris à part. Il m'avait dit, Eric, j'ai quelque chose à te dire. J'ai une prophétie pour toi. Voilà, tu vas être valorisé, élevé dans ton travail. Et on avait prié pour ça avec Michel. Il était là. Et bon, je crois que c'est une des réponses et une manifestation encore de Dieu dans mon travail. Voilà.
Alors, je vais... rendre témoignage d'un examen auquel j'ai été reçue, que j'aurais jamais pensé même pouvoir m'inscrire. Et c'est vrai que, comme disait Eric, j'ai bien aimé, on est honoré par le Seigneur. Et j'avais témoigné au mois de décembre que le Seigneur donnait au-delà de ce qu'on peut penser. C'est ce que j'ai encore vécu. J'ai été très touchée par l'attention du Seigneur. Et j'aimais bien ce chant qu'on chantait par le passé. Il y a une petite connotation à celui qui peut faire... par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons espérer. À lui soit la gloire. Amen. Et là, c'est ça. J'ai bien aimé aussi Alain, on n'en avait pas parlé, qui a chanté au début la chanson avec David et le géant. Et à chaque fois que je rentrais, j'étais devant la porte d'une épreuve, je me disais avec une seule pierre et le nom de l'Éternel. Donc c'est vrai qu'on a une pierre à apporter aussi. J'ai travaillé, vous avez vu. Merci d'avoir supporté mon appesantissement. C'était très lourd pour moi. Et merci à chaque frère et sœur qui a été là. Merci aux mamies. Je tiens particulièrement à les remercier, qui étaient présentes dans la prière. Sachez que j'y ai pensé très très souvent et que ça m'a beaucoup aidée. Et ce que je voulais dire, c'est surtout aussi pour vous aider, vous, c'est que j'ai entretenu une relation très particulière avec le Seigneur, parce que pour moi, c'était quelque chose d'important. Je suis rentrée dans cette profession avec beaucoup de difficultés. J'ai eu du mal, je n'avais pas les diplômes requis pour le poste de base. Et maintenant, on vient me chercher pour un poste. Bon, ce n'est pas HEC non plus, hein, mais bon, c'est un poste quand même qui est important. C'est un poste d'expertise et je me suis dit, mais vraiment, le Seigneur est bon avec moi. Et ça m'a permis d'avoir une relation très particulière pour quelque chose de grand pour moi, d'important. Et je tiens à garder cette relation particulière avec le Seigneur aussi pour les choses de la vie courante. Pas forcément pour les grands événements, comme celui-là, qui pour moi est un grand événement, mais aussi pour les choses de la vie courante, savoir reconnaître le Seigneur dans toutes choses. Merci.
Le Seigneur nous honore, le Seigneur nous bénit. Et voilà, aujourd'hui, c'est... On ne sait pas à qui c'est la fête, parce que c'est la fête de presque tout le monde. Tout le monde a quelque chose. mais c'est particulièrement pour nos trois jeunes qui ont atteint l'âge de faire leur bar mitzvah. Alors j'explique, pas à vous qui êtes dans la chapelle, parce que vous savez, mais pour ceux qui nous écoutent sur Internet, alors nous allons mettre, je pense, une petite vidéo pour que vous puissiez voir cela aussi. Mais en tout cas, je voudrais que vous puissiez écouter jusqu'au bout. Les enfants vont vivre quelque chose qui n'est plus tellement vécu dans les milieux chrétiens. Il faut savoir qu'au début, l'Église, c'était des Juifs. Hein? Ben oui, c'était des Juifs. Et alors, ensuite, Dieu a donc répandu la bonne nouvelle dans les nations, c'est très bien, mais les nations, on a un petit peu trop jeté. On a un peu trop jeté ce que ce peuple juif avait à nous donner. Et je pense qu'il faut que nous revenions, dans le rétablissement de toutes choses, il y a aussi cela, il faut que nous revenions à des vérités magnifiques. Alors, la bar mitzvah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose qui se passe... Quand Jésus est monté au temple à l'âge de 12 ans, et il a dit à ses parents, « Mais vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Et c'est très, très significatif. À l'âge de 12 ans, 12-13 ans, un garçon, une fille, maintenant les Juifs font aussi pour les filles, eh bien, nous faisons aussi pour les filles. Nous avons d'ailleurs une jeune fille avec nous ce matin qui veut faire sa bar mitzvah. On ne dit pas bar mitzvah, on dit autre chose pour les bat mitzvah, c'est ça. Eh bien, c'est pas le baptême. Hein. Le baptême, c'est après. Mais là, c'est un moment où ils prennent conscience que devant Dieu, ils sont responsables. C'est-à-dire qu'ils sont devant Dieu. Maintenant, c'est plus seulement les parents, mais c'est eux qui sont responsables vis-à-vis de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de leurs actions. Parce que c'est un âge où ils sont capables de faire la différence entre le bien et le mal. Alors, ils s'engagent en tant que jeunes soumis à leurs parents, mais aussi encore soumis à leurs parents, pas encore adultes, mais ils s'engagent à suivre le Seigneur Jésus dans la voie de leurs parents, en étant directement en connexion avec Dieu quant à leurs responsabilités. Ils deviennent majeurs spirituellement, si vous voulez. Alors, ils vont venir devant avec les papas et puis ils vont lire un texte de la Bible en public. C'est une prise de position devant l'Église, c'est en public. Et ils seront ainsi honorés, mais ils honoreront aussi leurs parents, parce que c'est un choix qu'ils ont fait, on ne les oblige pas. Et ils honorent Dieu. C'est à l'âge de 12-13 ans, parce qu'à l'âge de 12-13 ans maintenant, on est encore plus que quand moi j'avais 12-13 ans, confronté à des choses terribles. Hein, on parlait d'Internet tout à l'heure, par exemple. Eh bien, c'est bien d'avoir pour eux cette, cette ponctuation dans leur vie, ils se rappelleront, voilà, j'ai fait ma bar mitzvah, je me suis quand même engagé, je sais que c'est à moi de voir au sujet du bien et du mal, maintenant je suis responsable devant Dieu. Et puis ensuite, quand ils seront un peu plus mûrs, un peu plus adultes, ils prendront l'engagement, oui ou non, s'ils veulent continuer avec Jésus en se faisant baptiser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible dit de le faire. Donc voilà, c'est ce que nous allons vivre ce matin avec eux. Et voilà, j'ai établi un programme. Maxime, est-ce que tu pourrais me l'apporter? Parce que je l'ai paumé, le programme. Je ne sais plus ce qui vient après. C'est toujours comme ça. Merci. Et je vais passer la parole à Olivier, qui est maintenant un adulte, mais qui est le premier à avoir fait sa bar mitzvah ici, dans la chapelle du sanctuaire. Et il va vous en parler un petit peu, il va vous expliquer ce qu'il a vécu depuis, enfin je ne sais pas exactement ce qu'il va dire, mais il a à cœur de dire quelque chose, donc je lui passe la parole. Ensuite il va nous chanter un chant de sa composition, accompagné par Stéphane et Richie. Olivier, c'est à toi.
Merci. Merci mon cher. Et donc je me souviens encore quand j'avais 12 ans avec ma petite voix et mon grand châle. Et vraiment, cette expérience m'a lié aux choses de Dieu. J'ai pris conscience que ça donnait une direction dans ma vie et que ça allait vraiment m'aider. Je ne savais pas comment, mais je le savais. Et j'aime mes parents parce qu'ils ils m'ont jamais forcé. Et quand je racontais ça, quand je racontais ma bar mitzvah à des amis, ils me disaient « Ouais, ils t'ont pas forcé, mais à mon avis, ils ont tout fait pour que tu le fasses, quoi. » Et là-dessus, j'ai réfléchi et je me suis dit, même s'ils m'avaient donné l'impression de tout faire pour me contraindre, ou je leur suis reconnaissant. Parce qu'ils l'ont fait par amour. Et on agit tous par amour. Mais après, par amour de qui et par amour de quoi? C'est ça qui nous différencie. Et moi, je savais que c'était un amour droit et honnête. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Et dernièrement, il s'est passé quelque chose d'assez fort. Je suis allé à une soirée avec des amis. Ils s'appelaient Manuel et Mélodie. Donc peu après dans la soirée, Mélodie s'en va et je reste avec Manuel. Et Manuel me parle de la Bible, alors qu'il m'avait dit qu'il n'avait jamais lu la Bible. Et il commence à me parler de Jonathan et David et de leur amitié. Et peu après, on est interrompu par quelqu'un bon, qui faisait la fête et tout ça. Donc on lui a dit calmement qu'il nous dérangeait. Et donc et j'ai une mauvaise pensée à son égard. Et il m'a dit qu'il ne fallait pas que j'aie de mauvaises pensées sur lui. Et que ces gens-là étaient utiles aux anges et à nous aussi, pour nous faire avancer. Et ensuite, il a commencé à prophétiser sur notre communauté qu'on avait encore des choses à apprendre, mais que les anges nous aideraient, qu'ils seraient là avec nous. Et je pense que les anges, ça peut être nos frères et sœurs, ceux qui sont à l'extérieur, les enfants qui vont faire leur bar mitzvah, pardon. Et il y a eu aussi un autre événement jeudi avant que je vienne. J'ai rencontré dans le métro cet homme, je ne le connaissais pas du tout. Et il s'est approché de moi comme s'il était essoufflé et il devait me dire quelque chose. Et il m'a demandé de prier pour lui, pour qu'il ait la paix. Et il m'a dit « Toi, tu peux me donner la paix ?» Et évidemment, j'ai prié. J'ai dit bien sûr oui. Et il m'a demandé mon nom plusieurs fois. J'ai répondu que mon nom c'était Olivier. Et il continuait à demander mon nom. Et puis, je lui ai dit « Fils de Dieu ». Et il m'a demandé si c'était le Dieu d'amour. Et j'ai dit oui. Et il a pleuré comme s'il était soulagé. Et il s'est rendu compte de quelque chose d'extraordinaire, comme s'il venait de voir Dieu. Il a pleuré comme s'il pleurait sur ses péchés. Et je l'ai consolé. Et ensuite, il m'a dit que je devais venir chez lui, parce que sa sœur, quand elle priait, elle a eu un message et elle m'a dit que je devais venir chez eux. Donc il m'a invité chez lui et en chemin, il m'a parlé qu'on aurait une amitié comme David et Jonathan dans la Bible. Et ensuite, j'ai mangé chez lui, j'ai dormi et pour le remercier, j'ai voulu l'inviter aujourd'hui, mais il n'a pas pu venir à cause de... Il devait aller dans sa famille et voilà, je pense qu'il viendra très prochainement avec Manuel aussi. Je pense qu'ils viendront, voilà.
Ô Jésus, tendre maître, tu dis venez à moi. Apprenez à connaître, à écouter ma voix, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Oh, quel repos tranquille près de toi, bon berger. Aux disciples en peine, réunis en secret, chassant leurs craintes vaines, soudain tu apparais. Aux joies inespérées, tu bannis leur effroi, montrant tes mains percées, tu leur dis: paix vous soit. Oh, que ta paix profonde demeure en nous, Seigneur. Paix que jamais le monde ne donne à notre cœur. Ni peine ni souffrance ne troubleront la paix que donne ta présence et ton amour parfait. Aux disciples en peine, réunis en secret, aux joies inespérées, aux joies inespérées, tu bannis leur effroi, montrant tes mains percées, tu leur dis: paix vous soit, paix vous soit, paix vous soit. vous soit, paix vous soit, paix vous soit, paix vous soit.
Nous allons mettre la vidéo pour que les frères et sœurs qui n'ont pas la joie d'être avec nous, est-ce qu'on peut monter le truc là ? Merci, qu'ils puissent voir ça. Merci beaucoup Mélodie pour ce que tu as préparé là, c'était très beau, vraiment c'était très joli, et pour l'équipa, tout, c'était très bien, et les enfants, vous avez, c'était très joli, très joli. Amen, c'était très bien. Eh bien, ce matin, on va prendre un texte des Écritures. Est-ce que tu peux m'apporter ma Bible, Maxime ? Toi, je te mets beaucoup aujourd'hui à contribution. Je suis très fort pour faire les programmes. Après, je me rappelle plus ce que j'ai fait comme programme. Merci. Alors, je paume mes affaires. Je dis, tiens, je mets ça là. Comme ça, je me rappellerai. Après, je ne me rappelle plus où j'ai dit que j'allais les mettre. C'est mon grand âge. Qu'est-ce que vous voulez ? En tout cas, c'est un grand jour de joie. Amen ! Amen ! C'était très bien. On va lire maintenant Hébreux chapitre 10, je ne vais pas être très long parce que déjà il y a eu beaucoup de choses et là on a déjà le cœur plein de bonnes choses, c'était très beau. Alors, dans Hébreux chapitre 10 et versets 19 à 22. Ainsi donc frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est la suite de ce que je vous disais vendredi soir. Vendredi soir, je vous disais que la vision du monde, notre vision du monde, elle doit être spirituelle. Ça doit être ça, la norme. La norme. Dieu est en train de rétablir cela aussi en nous. C'est le rétablissement de toute chose, et surtout cela aussi. Pas seulement les doctrines, comme certains pensent, mais toute chose doit être restaurée, rétablie. Quand une personne est purifiée, par Dieu dans le sang de Jésus-Christ à la croix. Il a versé son sang afin que nous n'ayons pas à verser le nôtre. Nous devions mourir à cause de nos péchés. Il a donné sa vie à notre place. Une fois que nous avons compris cela, une fois que nous sommes nés de nouveau, une fois que nous sommes remplis du Saint-Esprit, comme les 120, alors dans la chambre haute, aujourd'hui nous fêtons la Pentecôte, une telle personne, elle se met à voir derrière le voile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le voile a été déchiré. Rappelez-vous, dans le temple, il y avait trois endroits principaux. Le principal endroit, le lieu saint, très très saint, il était derrière un voile épais. Là, c'était très peu de personnes qui avaient le droit de rentrer. C'était le souverain sacrificateur, je crois, une fois par an. Et encore, on lui attachait une chaîne au pied. Et alors, si on ne le voyait pas revenir, on pensait qu'il était foudroyé dans la présence de Dieu. Alors, on le tirait, n'est-ce pas, avec la chaîne. C'était terrible, n'est-ce pas ? C'était terrible. C'était un endroit très, très, très saint dans le temple à Jérusalem. Eh bien, quand Jésus est mort, au moment où il est mort, ce voile s'est déchiré du haut en bas. C'est historique. Il s'est déchiré du haut en bas. Ce n'est pas une main d'homme qui a fait ça. C'est Dieu qui a déchiré ce voile. C'était un symbole. C'était un symbole. Le voile, d'après ce que nous lisons là dans la Bible, ce qu'on a lu ce matin, le voile, c'était le symbole de la chair de Jésus qui était déchirée en lambeaux sur cette croix. Vous comprenez ? Et cette chair nous empêchait de voir Dieu qui était dedans. Dieu était dans cet homme. Une fois que le voile était déchiré, une fois que Jésus est mort, alors nous avons accès à l'Esprit qui était dans cet homme, à Dieu lui-même. Nous entrons dans la présence de Dieu librement. Autrefois, nous étions morts à l'égard des choses de Dieu. On était séparés, il y avait ce voile. On était devenus aveugles quant aux choses du royaume, quant à la façon de vivre dans ce royaume, à la façon de nous comporter. Les seules choses auxquelles l'homme avait accès avant cela, c'était le temps et puis l'essence, ce que l'essence nous permet de contacter sur cette terre. C'était ça notre domaine naturel. Mais quelque chose de nouveau est arrivé. Jésus nous a ouvert l'accès. Jésus a ouvert, il a inauguré la route, c'est ce qu'on vient de lire, pour que nous allions plus loin. Jésus, l'homme, c'était Dieu voilé dans la chair et il était dans une chair semblable à la nôtre. C'est pourquoi les gens pouvaient douter, parce que c'était un homme semblable à nous, mais il faisait des choses, il produisait des choses, il disait des choses. Il y avait des choses miraculeuses, surnaturelles qui arrivaient. Et quand cet homme est mort sur la croix, quand sa chair était déchirée, suspendue, morte à ce bois infâme, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le voile du temple s'est déchiré, le symbole. Le voile du temple symbolisait, je le répète encore une fois, la chair de Jésus. Le voile déchiré, il nous laisse un libre accès à ce qui est de plus sublime. La présence même de Dieu. Dieu est esprit. Et maintenant, nous avons un libre accès. La route est inaugurée par lui. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu lui-même. L'accès au lieu très saint est ouvert. C'est Dieu qui l'a ouvert. C'était déchiré du haut en bas, nous dit la Bible. Du ciel sur la terre. C'était ouvert. Maintenant, on peut contempler ce qui avait toujours été caché. On peut le contempler. Le Saint des Saints, ça nous est devenu accessible. Nous pouvons entrer dans les choses de l'Esprit. Nous pouvons entrer dans les choses de Dieu. Nous pouvons entrer dans la présence de notre Créateur. Avant, c'était impossible. C'était impossible. C'est par la foi, maintenant, que nous voyons naturellement, que nous voyons sans effort, tout ce qui nous est offert. Frères et sœurs, pensez-vous. Pensez toutes ces choses-là. Dans les actes courants de la vie, la démarche de la foi, c'est tellement naturel, c'est tellement inconscient, c'est tellement continuel, on pratique tellement toujours, toujours, toujours des actes de foi, qu'on ne voit pas que c'est surnaturel. Là, regardez ce que je fais. Je m'assieds. Eh bien, c'est un acte de foi. Je n'ai pas calculé pour savoir si le tabouret allait pouvoir me soutenir, etc., etc. Je me suis assis. Quand je mange, je mets des choses dans ma bouche, j'avale, c'est des actes de foi. Quand je respire, ça pourrait être empoisonné l'air. C'est des actes de foi et c'est devenu tellement naturel. Un enfant qui naît, c'est devenu tellement naturel. Tout ça, c'est des actes de foi. Pourtant, tout est surnaturel parce que tout est d'origine divine. La naissance, notre vie, la mort, tout est d'origine divine. Tout ça, c'est surnaturel. Mais l'homme irrégénéré n'y pense pas. Et il vit avec les choses, avec les trucs, avec les gens comme ça. L'homme purifié par le sang de Jésus-Christ, la femme purifiée, l'homme, la personne née de nouveau par l'Esprit de Dieu, l'homme immergé dans le Saint-Esprit, il devient conscient du surnaturel. Il devient conscient et il reconnaît Dieu dans toutes ses voies. C'est ça qui fait la différence. Nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies. C'est ça la différence. Nous voyons Dieu partout. Nous voyons que c'est Dieu qui conduit, que c'est Dieu qui dirige, que c'est Dieu qui inspire, que c'est Dieu qui protège. Nous voyons que c'est Dieu partout. Nous sommes entrés dans la présence. Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu d'être présent. Beaucoup de chrétiens incrédules prient pour qu'il y ait la présence de Dieu, mais nous ne prions pas pour que Dieu soit présent. Il est présent, nous en sommes conscients. Nous sommes entrés maintenant dans le lieu très saint. Et cela, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a tout fait pour que nous puissions avoir accès à cette présence. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Il nous a fait un cadeau et c'est inestimable. C'est un prix. Il n'y a pas, on ne peut pas imaginer ce que ça a coûté. Il nous a rachetés pour lui-même. Il nous a rachetés au diable. Il nous a arrachés à la chair. Il nous a arrachés au monde. Il a tout fait. Et nous, il a fait ça pour nous. Nous, avec nos puissances, avec en particulier nos deux puissantes facultés dont je vous parlais l'autre jour, l'amour et la foi, tous les gens ont de l'amour, tous les gens manifestent la foi. Eh bien, nous a rachetés avec ça. Cet amour et cette foi que nous possédions déjà avant, ça avait produit tant de bien et tant de mal aussi sur la terre depuis Adam et Ève. Il nous a rachetés avec cet amour, avec cette foi. Et maintenant, notre amour, comme Olivier a dit tout à l'heure, notre amour, nous le dirigeons vers Dieu avant de le diriger vers d'autres choses, mais c'était de l'amour. Les choses les plus horribles sont faites aussi par amour. Certains hommes ont tué par amour. Ont massacré par amour. Du pouvoir, de l'argent, mais c'était toujours de l'amour. Un amour perverti, mais c'était toujours de l'amour. Maintenant, notre amour, depuis que le voile est déchiré, nous avons accès à un amour qui n'est pas perverti. Depuis la chute, on connaît le bien et le mal. Et nos deux facultés humaines, l'amour et la foi, ont servi pour faire beaucoup de bien sur cette terre, c'est vrai, mais aussi surtout pour faire beaucoup de mal. Et voilà pourquoi le monde va si mal aujourd'hui. Alors, Dieu est entré lui-même dans l'arène où on était en train de se débattre. Il est entré lui-même, il s'est incarné, il est venu dans une chair semblable à la nôtre, il est venu lui-même par sa propre volonté. Personne ne l'avait demandé, il a tout fait pour ranimer cet amour qui était en nous, pour stimuler cette foi qui était en nous, qu'il avait mis lui-même en nous. Nous sommes faits avec ces facultés-là, c'est ce qui fait de nous des personnes. Comme disait le père de Cal hier soir. Pour agir, la foi doit d'abord voir quelque chose, mes frères et sœurs. On dit, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Mais oui, mais c'est vrai, mais la foi, elle doit d'abord voir quelque chose. C'est-à-dire, elle doit pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Eh bien, Dieu a rencontré notre foi. Comment ? Il a tout simplement parlé à notre sens moral. Il a parlé à notre conscience. Il a parlé à la loi qui est inscrite dans notre cœur. Elle est inscrite dans notre cœur. Il s'est adressé à ça. Il s'est adressé à notre capacité de distinguer entre le bien et le mal, à notre capacité de distinguer, de discerner ce qui est élevé et ce qui ne l'est pas. Ce qui est louable, ce qui est vil. Il a parlé à notre capacité d'aspirer à la perfection. Il a parlé à notre capacité d'aspirer à cette perfection dont nous avons conscience que nous avons perdu même les bases. Il a parlé à ça. Dieu a commencé à stimuler tout ça. Il a fait ça au travers de l'histoire. Lisez la Bible. Toute la Bible, c'est cette histoire-là. C'est Dieu qui vient à notre rencontre. C'est Dieu qui vient à notre rencontre par des révélations. Il se révèle à Moïse. Il révèle ce qui est vrai. Il révèle de bonnes choses. Il accompagne ces révélations par des prodiges, par des miracles, pour attirer notre attention, pour nous impressionner, pour nous voir que vraiment c'est vrai. Et tout ça, toutes ces choses qu'il a dites, toutes ces choses qu'il a faites, ça, tout ça sont été des éléments que nous pouvons utiliser pour mettre notre foi. Nous connaissons ces choses. Et c'est ça qui fait que nous pouvons avoir la foi. Ce n'est pas la foi sans rien voir. Ce n'est pas la foi sans aucune assurance. C'est la foi basée sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a fait. Ce n'est pas rien. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la vérité, donc ils ne veulent rien savoir de ces choses-là. Et puis Dieu lui-même, finalement, il est venu, lui, la véritable lumière, il est venu, lui, en personne. Il est venu luire dans les ténèbres, dans nos ténèbres. Et ce qu'il avait dit aux prophètes autrefois, qu'on trouve tout ça, on trouve tout ça dans l'Ancien Testament, c'est devenu chair, c'est devenu une réalité. Il a habité parmi nous, plein de grâce, plein de vérité, plein de puissance, il est réellement venu. Et rien n'a été laissé au hasard, rien du tout. Les choses qu'il a dites, les œuvres qu'il a faites, les miracles, les prodiges, sa mort victorieuse, sa mort qui nous rachète, sa résurrection en public, soigneusement attestée, ses apparitions, son ascension en public aussi, visible. La venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte devant des milliers de personnes. Les disciples transformés, ils ne comprenaient rien à rien. Et tout à coup, voilà que c'est des gens qui sont capables d'écrire des choses d'une sagesse, de faire des choses qui sont d'une beauté, des hommes et des femmes transformés. Ce qu'ils ont écrit, tout cela, c'est des sommets pour notre foi, des sommets qu'on peut voir, mes frères et sœurs. Ne détournez pas vos regards de ça. Dieu, il est descendu à notre rencontre, à la rencontre de notre foi humaine. On a besoin de la foi pour vivre, on a besoin de l'amour pour vivre. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir de la foi et pour avoir de l'amour. Mais à partir du moment où nous devenons chrétiens, alors notre foi et notre amour devient réglé pour le bien, pour la réussite, pour le bon, pour l'honorable, pour le louable. Il a ouvert l'accès, le voile qui nous cachait ces choses-là est déchiré. Maintenant, on peut avoir accès à ça. Notre foi en lui, elle peut s'exercer tout simplement, aussi naturellement qu'à l'égard des choses de la terre. Ce n'est pas plus difficile de s'asseoir sur ce siège que d'imposer les mains à un malade pour le guérir. Ça n'est pas plus difficile. Je sais ça, je parle en connaissance de cause. Dieu a tout donné pour que notre foi puisse tout recevoir. Tout. Dieu a pourvu absolument pour tout. Par exemple, dans le domaine charnel, comme il y a des sons, eh bien, il a créé l'oreille pour qu'on puisse les percevoir. Eh bien, de même, il a donné tout ce qui est nécessaire dans le domaine spirituel. Il a créé tout ce qu'il faut pour que nous puissions prendre position dans notre foi, pour prendre possession de ce qui est à nous. Ça n'est pas du domaine incompréhensible, c'est pas aléatoire, c'est pas une fois ça marche, une fois ça marche pas. Lui, le donateur, pourvoit à tout. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu, nous dit la Bible aussi, c'est un Dieu d'ordre et c'est un ordre merveilleux. L'ordre merveilleux de Dieu, qu'il a mis dans la nature et dans l'esprit, il est très simple. C'est un ordre très simple. Tout le monde sait. Il y a le haut, il y a le bas, il y a la gauche, il y a la droite, tout ça, c'est simple. Il y a de l'ordre dans la nature. Et tout ce qu'il y a dans le monde de l'esprit, ça a son pendant dans le naturel. C'est comme un fleuve, la Bible dit que c'est comme un fleuve qui est intarissable, ses dons se répandent sur nous. Toutes les choses naturelles et surnaturelles, que ce soit le soleil, que ce soit la pluie, que ce soit la nourriture, la richesse ou la grâce en Jésus-Christ, tout ça c'est à nous. C'est à nous, on y a droit, on peut l'avoir. Tout est à nous en surabondance infinie, tout, absolument tout, tout, à ceci près qu'il ne nous contraint pas d'accepter. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne nous contraint pas d'accepter? C'est-à-dire que nous qui avons regardé ce voile déchiré et qui sommes entrés dans sa présence, on ne se sent jamais contraint, jamais. Nous ne nous sentons pas forcés à vivre ces choses. Ni la vie du corps, ni la vie de l'esprit, on ne se sent pas forcés. Il nous aime et notre amour demande son amour. C'est une histoire d'amour, on ne se sent pas forcés. Il nous donne par amour, il nous donne le vouloir et le faire par amour. C'est une histoire d'amour pour l'amour. Ce qu'il nous donne, nous l'aimons, nous l'apprécions, alors nous le prenons. Dominique, il n'aime pas le fromage. Ben, il ne prend pas le fromage, c'est tout. Vous comprenez? Et ce que Dieu nous donne, c'est simplement en relation avec notre nature. Les gens qui n'aiment pas les choses de Dieu, ben, c'est que ce n'est pas leur nature, puis basta, quoi. On ne va pas leur casser les pieds avec ça, laissez-les. Mais ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment ce qui est beau, ceux qui aiment ce qui est honorable, ceux qui aiment ce qui est grand, alors ils ne peuvent qu'aimer les choses de Dieu. Parce que c'est de leur nature. Frères et sœurs, 99% de la vie, des choses de la vie, sont faites de ce que Dieu nous donne sans cesse. Même l'air qu'on respire. 1% consiste dans l'acte de se saisir de ce qu'il nous donne. C'est tout. Vous voyez, la part de la foi, c'est seulement 1%. La part de Dieu, c'est 99%. C'est une grâce. La Bible dit que c'est un cadeau. Cadeau. On n'a qu'à prendre. Si on veut être honnête, on pourrait même dire que 100% ça vient de lui. Parce qu'en réalité, la foi, c'est une faculté naturelle qu'il nous a donnée en nous créant. Mais il l'a donné à tous, aux méchants, aux bons, à tout le monde. Alors arrêtons de patauger dans la religiosité. Vous savez, Dieu est bon. Vous le savez? Dieu est bon. Alors, d'une manière logique, d'une manière constante, prenez, employez, appliquez ce qui vous est donné d'une façon logique. C'est ça la loi de la foi. La loi de la foi, c'est quoi? C'est la loi de l'appropriation. Rappelez-vous de ça. Ça sera le titre de cette prédication. La loi de la foi, c'est la loi de l'appropriation. C'est à vous. Prenez-le. Comme vous prenez l'air en respirant, comme vous prenez du bon vin en buvant, comme vous prenez son pardon de la même manière, sans complication. Prenez son amitié au sérieux, sans vous casser la tête. On se casse la tête. Quand ça commence à se casser la tête, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez sa paix. Abandonnez les pauvres rudiments du monde. C'est vraiment des trucs qui sont... C'est factice, c'est du fabriqué. Ça ressemble, mais ce n'est pas dû. Prenez donc la réalité, parce que la réalité, elle est vraiment spirituelle. Tout est spirituel. Le naturel est spirituel. Pour celui qui est spirituel. La Bible le dit, elle dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Alors ne vous laissez pas asservir par des trucs minables. Je voudrais vous lire 1 Corinthiens 3, 22 pour terminer. Écoutez ça. Tout vous appartient. Imaginez. Qu'est-ce qui m'appartient? Tout. Tout vous appartient. Alors lui, il dit, parce qu'à son époque, il y avait Paul, il y avait Apollos, il y avait Céphas. Mais je ne vais pas citer ces gens-là. Bien sûr, on pourrait les citer, mais ils sont bien gentils, mais ils sont morts maintenant. Mais tout vous appartient. Soit Michel Janton, soit Osborne, soit Branham, soit n'importe. Tout vous appartient. Soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout vous appartient. Tout est à vous. C'est à vous. Prenez-le. Mais vous, vous appartenez à Christ et Christ appartient à Dieu. Vous comprenez les choses? Quand vous avez conscience que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui était simplement Dieu voilé dans une chair et que cette chair était déchirée, que vous avez accès maintenant à l'Esprit pur de Dieu, vous rentrez dans les choses de l'Esprit et à partir de là, tout est à vous. Il suffit de prendre. La foi, c'est une action. La foi, c'est l'action de s'approprier les choses. C'est à vous. Pourquoi ne prenez-vous pas? Parce que ce n'est pas selon votre nature. Tout est à vous. Ne choisissez que les bonnes choses, celles que vous préférez. Il y a des choses que vous n'aimez pas. Ben, prenez-les pas, ce n'est pas grave. Mais tout est à vous. Que Dieu vous bénisse. Ne vous laissez asservir par rien et que Dieu vous garde dans sa paix. Amen. Amen. Merci Jésus de nous aider à comprendre ces choses. Merci Seigneur de m'avoir éclairé, de m'avoir permis de prendre ça sur des notes parce qu'avec ma petite mémoire, j'aurais été incapable de répéter ces choses. Mais je te remercie mon Dieu de me l'avoir inspiré dans mon bureau et de permettre que mes frères et sœurs puissent les comprendre, puissent les méditer, puissent les vivre. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que personne ne se laisse aller au découragement, quoi que ce soit, mais que chacun puisse prendre ce dont il a besoin pour aller de l'avant, dans son avenir, parce que l'avenir est à vous. Vous avez un avenir. Il est à vous. Et il est éternel. Faites de cet avenir, construisez cet avenir maintenant avec les choses que vous trouvez devant vous. Prenez-les et construisez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous